Bonjour et bienvenue dans La Tête au Carré. Alors que beaucoup aiment écouter de la musique ou fredonner une chanson, d'autres ne semblent pas percevoir la musique de la même manière. Ils ont du mal à chanter juste, n'entendent pas les fausses notes qui font grimacer tout le monde autour d'eux. Pour eux, la musique s'apparente à du bruit. Ces personnes souffrent de ce que l'on nomme l'amusie, et l'apostrophe amusie en un seul mot. Que savent les chercheurs de ce trouble? Le cerveau des amusiques présente-t-il des caractéristiques particulières? C'est ce que nous allons voir avec nos invités dans le dossier de La Tête au Carré. En duplex depuis les studios de France Bleu La Rochelle, Anne Caclin. Bonjour Anne Caclin.
Bonjour.
Vous êtes chercheuse au Centre de Recherche en Neurosciences de Lyon. Et puis avec nous en studio, Hervé Platel, membre du laboratoire Neurophysiologie Cognitive et Neuroanatomie Fonctionnelle de la Mémoire Humaine à l'INSERM et à l'Université de Caen. Bonjour Hervé Platel.
Bonjour.
Vous êtes l'un des auteurs du livre Le cerveau mélomane, paru aux éditions Belin. Et vous allez nous dire tous les deux ce que comprennent les scientifiques aujourd'hui de ce trouble de la perception musicale. Les auditeurs peuvent d'ores et déjà vous adresser leurs questions en allant sur la page de l'émission sur franceinter.fr. Du nouveau dans l'apparition du champ magnétique terrestre, c'est aujourd'hui à la une de la science. Bonjour Sylvain Guilbeault.
Bonjour Daniel et bonjour à tous. En effet, comment le champ magnétique de la Terre est-il apparu il y a plusieurs milliards d'années? Donc ce champ, il est très important pour la vie sur notre planète, mais les scientifiques ne comprenaient pas ce qui se passait au centre de la Terre pour le générer, et des géophysiciens viennent de faire une annonce qui pourrait résoudre cette énigme.
Voilà pour le programme de cette Tête au Carré, réalisé par Stéphanie Texier et préparé par Camille Jusot et Carole Sauvage.
La Tête au Carré, le magazine scientifique de France Inter. Daniel Fievé.
Anne Caclin et Hervé Platel sont mes invités pour parler des personnes amusiques. Alors parmi les personnalités illustres dont on pense qu'elles souffraient d'amusie, il y a Che Guevara, Theodore Roosevelt ou encore Milton Friedman, prix Nobel d'économie. On a des anecdotes qui attestent de leur amusie. Hervé Platel.
Oui, en définitive, on le suppose parce que c'est ce qu'ils nous disent. A posteriori, ils disaient bon, qu'ils n'avaient pas de sensibilité à la musique, qu'ils en écoutaient peu. On suppose par exemple aussi que Freud n'était pas très très sensible à la musique, il le disait lui-même. Mais en définitive, on n'avait pas de données très précises pour quantifier leur degré d'amusie.
Mmh. Anne Caclin, quel pourcentage de la population mondiale est concernée par la musique?
Alors, on estime entre 1 et 4% à peu près.
Ouais, on a des données assez imprécises, hein, on a du mal à savoir, c'est peu étudié. Les gens eux-mêmes, c'est assez mal vu finalement de ne pas être sensible à la musique. Anne Caclin.
Oui, la musique est quelque chose qui a une importante valeur sociale et qui nous lie finalement à travers toutes les cultures. Et c'est vrai que c'est assez mal perçu socialement de dire qu'on n'apprécie pas la musique. Oui.
Alors ce qu'on sait, Hervé Platel, c'est que ça ne se situe pas au niveau de l'oreille, de la perception auditive, c'est vraiment au centre du cerveau.
Hein. Oui, là on parle bien, en fin de compte, de difficulté à percevoir la musique de manière, comme on dit, centrale. C'est-à-dire c'est vraiment le cerveau qui est l'organe qui est perturbé dans cette perception.
Alors vous allez nous dire ce que l'on comprend aujourd'hui de la musique, est-ce héréditaire, est-ce que ça peut se corriger? Nous verrons aussi si cette difficulté avec la musique est associée à d'autres troubles comme la dyslexie par exemple. Nous sommes en direct et les auditeurs peuvent vous adresser leurs questions sur la page de l'émission sur franceinter.fr. À la une de la science aujourd'hui, une plongée dans les entrailles de la planète à la recherche des origines du champ magnétique terrestre.
Le noyau de la Terre ne tourne plus, semble-t-il.
Le noyau nous protège des radiations cosmiques.
Conséquence, les radiations vont déclencher de super orages électriques. Les ondes courtes vont littéralement cuire notre planète.
Pour dire les choses simplement, dans un an, tout le monde est mort sur Terre.
Pas de panique, hein, nous n'en sommes pas là. Le champ magnétique de la Terre est toujours en place et ça fait un bon moment. Hein. Des roches qui ont emprisonné sa trace indiquent qu'il était présent quasiment dès la formation de notre planète il y a plus de 4 milliards d'années. Mais les chercheurs ne comprenaient pas exactement quel processus avait eu lieu dans le noyau pour engendrer ce champ magnétique. Des géophysiciens viennent d'apporter une solution au congrès de l'Union américaine de géophysique de San Francisco. Et pour en parler, nous recevons l'un de ces géophysiciens, auteur de cette étude, Julien Sibert, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes géophysicien à l'Institut de physique du globe de Paris. Qu'est-ce qu'on ne comprenait pas exactement dans l'apparition du champ magnétique de la Terre?
Alors, il y a en effet un paradoxe qui est une grande question ouverte des géosciences, c'est-à-dire qu'on sait qu'il y a les roches, hein, donc on gardait l'empreinte de ce champ magnétique précoce depuis environ 4,4 4,2 milliards d'années. En revanche, on a du mal à expliquer comment générer ce champ magnétique avant l'apparition de la graine. Donc, vous savez, le noyau de la Terre, c'est du fer métal. La partie externe, c'est du fer métal qui est liquide. Et puis, quand la planète se refroidit, eh bien, on commence à cristalliser au centre de la Terre cette graine, donc qui est du fer solide. Et pendant ce processus de cristallisation, on va générer de l'énergie gravitationnelle, parce que le noyau, c'est du fer, mais aussi des éléments qui sont plus légers que le fer, comme le silicium ou l'oxygène. Et quand on cristallise donc ce solide, on enrichit localement le fer liquide dans ces éléments légers. Le fer liquide va donc être localement moins dense que le noyau externe environnant, remonter donc par différence de densité et créer des grands mouvements comme ça dans le noyau externe qui vont permettre de générer des courants électriques et du coup un champ magnétique terrestre.
Alors, ce qui se passe aujourd'hui, on le sait, avec cette graine solide au centre de la Terre. Mais voilà, au début, aux origines de notre planète, cette graine solide n'était pas encore solide. Et tout c'est tout le problème, c'est comment se fait-il qu'un champ magnétique s'est mis en place alors que le fer ne s'était pas encore cristallisé au cœur de notre planète ?
Bien, justement, c'est une inconnue. Donc nous, ce qu'on fait, c'est qu'on essaye de faire des expériences qui permettent de reproduire les conditions de la Terre primitive. Donc la Terre primitive, elle se forme, elle s'accrète par des impacts de planétésimaux, de protoplanètes. Donc ces impacts sont des impacts très énergétiques qui vont engendrer beaucoup d'énergie thermique et donc qui vont permettre de fondre une partie de la Terre primitive. Donc on fond les roches de la surface de la Terre primitive et on forme un océan de magma qui fait à peu près 1000 km de profondeur. Et donc, dans ce contexte, on ségrège le métal, qui est plus dense que ces roches fondues, vers le centre de la Terre pour former le noyau. Et c'est pendant cette ségrégation on va avoir une distribution des éléments chimiques entre le manteau de la Terre actuelle et le noyau qui se forme. C'est donc l'épisode vraiment de fractionnement chimique majeur de l'histoire terrestre. Et nous, au laboratoire, on reproduit les conditions extrêmes de pression et de température qu'on a à la base de cet océan magmatique.
Ouais, un sacré challenge d'essayer de comprendre ce qui se passait il y a tant d'années et aussi profond. Sylvain Guilbeault.
Et donc l'hypothèse, c'est que en dehors de la graine solide, il y a quand même eu des mouvements générés dans le noyau. Mais qu'est-ce qui a pu générer ces mouvements ?
Alors justement, c'est à partir de ces expériences où on regarde la composition du métal qu'on produit à très haute pression et trop de température de cet océan de magma, on s'aperçoit qu'à très très haute température, à très haute pression, on arrive à rentrer des éléments dans le fer liquide qui ont aucune affinité a priori pour les métaux. Et notamment, on s'est rendu compte qu'on rentrait du magnésium sous forme d'oxyde de magnésium. Donc on rentre ce magnésium dans le fer liquide et on ségrège ce métal vers le centre de la Terre qui va former le noyau. Une fois que le noyau est formé, il commence à se refroidir parce que la Terre, c'est une grande machine thermique qui se refroidit au fil du temps. Et donc, quand on commence à le refroidir, le magnésium devient insoluble dans le fer liquide et il commence donc à s'exsolver, ou si vous voulez, à se dissocier et à former des cristaux de MgO dans le fer liquide.
D'oxyde de magnésium, c'est ça le MgO. J'essaye de vous suivre, hein, parce que ça vole haut, hein, je ne vous cache pas, même si on est dans les profondeurs, dans les entrailles de la Terre.
Donc juste pour finir avec cette idée, ce MgO, il va être beaucoup moins dense que le fer liquide, hein, qui forme le noyau, et donc il va se dissocier de ce fer liquide et produire une quantité importante d'énergie gravitationnelle parce que ce MgO va remonter et engendrer des grands mouvements de fer liquide qui vont permettre de former le champ magnétique.
On a donc des petits atomes de magnésium, des petites molécules d'oxyde de magnésium au centre de la Terre qui remontent un peu comme des bulles de gaz dans une bouteille d'eau gazeuse. Elles remontent et c'est ce mouvement qui crée de l'électricité parce qu'il faut de l'électricité pour ensuite générer le champ magnétique.
Hein. Oui, le fer métal, c'est donc un métal et donc c'est un très bon conducteur électrique. C'est vraiment l'effet dynamo, comme on a pour éclairer son vélo. Donc on met un conducteur en mouvement et on génère un champ électrique qui induit un champ magnétique.
Sylvain.
Et du coup, en laboratoire, comment est-ce qu'on reproduit les conditions du centre de la Terre, qui est, lui, inaccessible, hein, plus de 5000 km sous nos pieds?
Oui, alors, effectivement, là, c'est vraiment un défi technologique auquel on a du mal à répondre. On commence seulement actuellement à avoir la technologie et à avoir les protocoles expérimentaux qui nous permettent de reproduire ces conditions extrêmes de pression et de température. Le principe, finalement, il est assez simple. On utilise des diamants, qui sont des matériaux extrêmement durs et qui sont extrêmement résistants à la pression. Et donc, on va comprimer des échantillons, qui seront donc des analogues de notre Terre primitive, hein, qu'on essaye de reproduire, entre les diamants. Donc, on va pouvoir imposer des pressions qui sont de l'ordre de plusieurs... d'un million de fois la pression atmosphérique environ. Et donc, on comprime nos échantillons comme ça. Ensuite, il faut les chauffer. Et donc, pour ça, on fait passer des lasers à travers les diamants, qui sont vraiment des très bons, qui sont transparents aux rayons, à certains rayonnements électromagnétiques. Et c'est notre échantillon qui va donc absorber la puissance du laser et chauffer de cette façon-là. Donc, on arrive à chauffer à plusieurs milliers de degrés Celsius, hein, environ 5000, 6000 degrés Celsius, nos échantillons, tout à la fois en les comprimant à très haute pression.
Oui, c'est comme ça qu'on recrée des conditions incroyables, parce que pression de combien de fois la pression atmosphérique au centre de la Terre?
Alors, au centre de la Terre, il y a à peu près 3 millions de fois la pression atmosphérique. Ouais. Dans nos expériences, on reproduit en fait les conditions de la base d'un océan magmatique. Là où on a équilibré le noyau et le manteau chimiquement, on a environ 1 million de fois la pression atmosphérique. Par contre, les températures sont beaucoup plus élevées que les températures qu'on a aujourd'hui même au centre de la Terre. Et c'est pour ça, justement, qu'on arrive à mettre des éléments auxquels on s'attend pas dans le fer liquide et qui, aujourd'hui, plus tard, hein, pendant que le noyau se refroidit, vont être dissociés du fer liquide et permettre d'entraîner ces mouvements dans le fer liquide qui génèrent le champ magnétique.
Ouais. Merci, Julien Sibert, de nous avoir, comme ça, appris un peu, donné quelques nouvelles de ce champ magnétique et de ses origines. Et merci, Sylvain Guilbeault. On se retrouve demain.
Oui, à demain.
En bref, dans le reste de l'actualité scientifique, l'homme dort moins, mais mieux et plus profondément que les autres primates. C'est ce que révèlent des chercheurs américains. Selon eux, cette différence de sommeil remonte à 2 millions d'années lorsque l'Homo erectus est descendu dormir par terre plutôt que perché sur les arbres. Si la nuit passée est ainsi meilleure, elle est aussi plus courte, les hommes endormis au sol étant plus vulnérables face aux prédateurs. Raccourcis et efficaces, cette nuit leur a également laissé bien plus de temps pour fabriquer des outils ou partager des histoires. Il devient papa grâce à son sperme congelé depuis 23 ans. Il s'agit de la naissance obtenue par fécondation in vitro avec les spermatozoïdes les plus vieux au monde. Comprenez ceux qui ont été le plus longtemps conservés à moins 196 degrés dans de l'azote liquide. C'est la miraculeuse histoire d'Axel Powell. Alors qu'il apprend à 15 ans qu'il souffre d'un cancer, l'adolescent décide de congeler son sperme avant de subir une chimiothérapie qui pourrait le rendre stérile. Une précaution qui lui vaut 23 ans plus tard à ce jeune papa, une inscription au Guinness World Records. Et pour bien finir, l'esprit de Noël scanné par IRM, le goût d'une bûche ou la vue d'un sapin activerait un circuit cérébral particulier. C'est ce que révèlent des chercheurs danois qui ont réussi à localiser les zones sollicitées par l'esprit de Noël dans le cerveau, tout en scrutant par IRM le cerveau de 20 personnes, dont la moitié célèbre Noël et l'autre non. Ces scientifiques leur ont montré des images symbolisant les fêtes, alternées avec d'autres images non liées à ce thème. Verdict, 5 zones cérébrales associées à la spiritualité ou à la capacité à s'oublier pour se tourner vers le monde extérieur s'activent de façon plus significative à l'évocation de Noël et de manière plus importante encore chez les 10 personnes habitées par l'esprit de Noël. Dans un instant, on s'intéresse à l'amusie, ce trouble de la perception musicale qui affecterait 4% de la population mondiale. Mes deux invités attendent vos questions et vos témoignages à la page de l'émission sur franceinter.fr.
Souvent la tête dans la cantine, je dessine le goût amer de ta cuisine. Mes babines, et je finis par voir des gens. Visage gris, des jours sans blanc, des gens avec des chiens, je les vois creuser des enfants avec du cran, avec les mains, mélange le noir avec le blanc, jeu de rein, jeu de vilain, ils ont des laisses autour.
C'était Odezen qui chantait Bouche à lèvres dans La Tête au Carré sur France Inter.
La Tête au Carré, jusqu'à 15h, sur France Inter.
Si tout le monde vous dit que vous chantez comme une casserole, si lors d'un concert amateur, vous êtes le seul à ne pas sursauter devant les fausses notes manifestes, ou si tout simplement, vous n'éprouvez aucun plaisir à écouter de la musique, c'est peut-être que vous êtes à musique. Et on s'intéresse à votre cas précisément aujourd'hui dans La Tête au Carré en compagnie de deux chercheurs spécialistes de la question, Anne Caclin et Hervé Platel. Anne Caclin, quelles sont les caractéristiques principales qui correspondent à ce trouble que les scientifiques nomment amusie congénitale?
Alors, donc, la définition un peu de la vie quotidienne de ce qu'est la musique congénitale, c'est ce que vous venez de mentionner. C'est d'abord cette difficulté à détecter des fausses notes, à reconnaître qu'un musicien joue faux ou que quelqu'un chante faux.
Donc là, c'est sur hauteur de notes que ça se situe comme difficulté.
Oui.
Est-ce que c'est aigu? Est-ce que c'est grave? Est-ce qu'une note est plus aiguë ou plus grave qu'une autre?
Voilà, et puis aussi pour pouvoir détecter qu'une note est fausse, il faut avoir quand même un certain nombre de connaissances sur le système musical. Donc pour nous, c'est la musique tonale, donc il faut avoir intégré certaines des règles de ce système pour pouvoir dire que telle note est fausse.
Et alors on peut avoir des difficultés, par exemple, une mélodie très connue, par exemple on fredonne Joyeux anniversaire, tout le monde reconnaît le Joyeux anniversaire, mais la personne à musique aura du mal à identifier cette mélodie pourtant familière.
Voilà, si par exemple, si on a une amusie relativement prononcée, même une mélodie très très connue comme l'hymne national, on va avoir du mal à la reconnaître tant que les paroles n'entrent pas en action.
Ouais.
Donc c'est les deux difficultés principales, donc cette difficulté à détecter que la musique est fausse et la difficulté à reconnaître des mélodies connues, et en général aussi c'est associé au fait de chanter faux.
Ouais.
Avec si c'est pas systématique.
Également cette notion de plaisir qui est liée à la musique. En général, les amusiques n'éprouvent, peut-être parce que justement ils ne la comprennent pas, ils ne voient pas, ils n'entendent pas les harmonies, et donc n'ont pas de plaisir à écouter de la musique.
Alors ça, c'est une question qu'on commence vraiment tout juste à étudier en laboratoire. Et en fait, les premiers résultats qu'on a donc dans différentes équipes de recherche, c'est un petit peu paradoxal. C'est-à-dire que, en fait, malgré toutes ces difficultés perceptives qu'on vient de mentionner, certains amusiques congénitaux éprouveraient quand même du plaisir à écouter la musique, donc auraient quand même des émotions musicales qui seraient préservées. Donc, par exemple, une équipe en Angleterre avait mené une expérience par questionnaire où ils demandaient finalement régulièrement dans la semaine aux gens de leur décrire si ils écoutaient de la musique, quel type de musique, etc. Et en fait, on s'est rendu compte qu'il y avait deux sous-populations, une partie qui n'écoutait pas de musique, ou du moins beaucoup moins que la moyenne, et puis une partie des amusiques congénitaux qui écoutaient tout autant de musique que des sujets contrôle.
Alors il y a eu une amusique qui a marqué l'histoire de la musique, c'est Florence Foster Jenkins. Elle a inspiré le film Marguerite de Xavier Giannoli avec Catherine Froh, qui est sorti en septembre dernier. Je vous propose d'écouter Florence Foster Jenkins interprétant La Reine de la Nuit.
Woo!
Platel, déjà ce qu'on peut dire là, c'est si les auditeurs n'ont pas senti qu'il y avait comme un problème dans cette interprétation,
oui,
c'est
fait,
qu'il
oui.
y a des chances qu'ils fassent partie des 4% de la population amusique.
Je pense que ça peut être un bon test, en définitive. J'ai beau l'avoir déjà entendu, à chaque fois c'est une souffrance. Mais moi, effectivement, j'ai une souffrance à l'écoute effectivement de ces fausses notes. Et d'ailleurs, ce qui est intéressant, c'est qu'on sent bien qu'au-delà du fait qu'elle n'arrive pas à chanter juste, rythmiquement, c'est pas ouais. génial non plus, puisqu'on entend que le pianiste un peu galère un peu derrière pour essayer de rattraper les choses de manière rythmique. Et ça aussi, c'est un aspect que les recherches récentes ont un peu souligné, c'est que l'aspect rythmique n'est pas non plus parfait. En tout cas, ça enlève les certitudes qu'on avait pendant longtemps en disant la musique, c'est quelque chose d'absolument universel et tout le monde entend naturellement, de manière innée, la musique. Et c'est pas si simple que ça. Ouais.
Anne Caclin, il y a différents types d'amusie. On peut avoir des problèmes avec le rythme, avec le timbre. Certaines personnes auraient du mal à différencier différents instruments de musique également. C'est donc pas uniquement une question de hauteur de notes.
Oui, ça c'est une question qui devient actuelle en ce moment, c'est de savoir est-ce qu'il y a un type d'amusie congénitale ou est-ce que finalement il y aurait plutôt plusieurs sous-types d'amusie et on s'oriente plutôt vers ce scénario. Donc ce qui est le plus étudié aujourd'hui, ce sur quoi nous à Lyon on a travaillé le plus, c'est tout ce qui est lié effectivement à la hauteur des notes et à la mémoire de ces hauteurs. Mmh. Mais il y a maintenant aussi de décrits des cas d'amusie qui concerneraient spécifiquement le rythme, sachant que certains des amusiques congénitaux où la hauteur est touchée auraient peut-être aussi un déficit de rythme associé. Et puis, encore plus récemment, a été décrit ce qu'on appelle l'anédonie musicale congénitale. Donc là, c'est des gens qui n'auraient pas de difficultés perceptives, en tout cas pas telles qu'on puisse la mesurer avec les tests dont on dispose aujourd'hui, mais qui par contre ont une relative incapacité à éprouver des émotions à l'écoute de la musique.
Ce qu'il faut préciser, Anne Caclin, c'est que vraiment les personnes qui souffrent, alors je ne sais pas s'il faut dire ce trouble, cette difficulté, comment vous parlez de quoi quand vous parlez d'amusie, vous ?
Trouble ou difficulté me va très bien. Isabelle Peretz à Montréal a une expression que j'aime bien. Elle dit que c'est un handicap musical. Je pense que ça rend bien compte de la réalité de ce phénomène.
Alors les personnes qui souffrent de ce handicap musical peuvent évoluer dans des milieux musicaux avec des parents musiciens, peuvent avoir suivi des cours de solfège. C'est-à-dire que ce ne sont pas des personnes qu'on a coupées de la musique.
Non, pas du tout, non. Et on a effectivement, parmi les participants qu'on a pu tester dans nos expériences, on a des gens qui viennent de milieux où la musique était vraiment omniprésente. Et donc, on ne peut pas attribuer le trouble à un déficit d'exposition à la musique. Ça semble être une autre cause.
Alors, ce dont nous venons de parler, ce sont les amusies congénitales, c'est-à-dire des personnes qui naissent comme ça. Hervé Platel, il existe aussi des amusies acquises, c'est-à-dire qu'elles surviennent à quelle occasion, alors, ces amusies?
Oui, alors c'est ce qui était beaucoup plus connu, parce que la musique congénitale, même si le terme existait, a été inventé à la fin du 19e siècle, en définitive, la première publication scientifique, Anne a évoqué le nom d'Isabelle Peretz, a été publiée en 2002 par Isabelle Peretz dans la revue Brain. Ouais. Et c'est vrai que on avait des connaissances sur la musie, mais la musie acquise, c'est-à-dire les personnes qui, à la suite d'une maladie du cerveau, accident vasculaire cérébral, traumatisme crânien, tout type de maladie pouvait avoir des lésions du cerveau qui produisaient des troubles particuliers, spécifiques de la perception musicale. Mais il a fallu beaucoup de temps, en fin de compte, pour bien comprendre qu'on pouvait avoir un panorama extrêmement varié de ces troubles de la musique, parce que l'idée qu'on se faisait de la musique et du cerveau, c'était, en fin de compte, assez caricatural. Jusque à la fin de la Deuxième Guerre mondiale, par exemple, on pensait que la musie était une forme particulière de trouble du langage et a été peu étudiée d'ailleurs de manière spécifique, puisque les patients qui ont une maladie du cerveau, généralement s'ils ont des difficultés au niveau du langage, ils s'en rendent bien compte et ils s'en plaignent. Mais s'ils ne sont pas musiciens, ils ne se rendent pas forcément compte qu'ils ont des difficultés dans le domaine de la perception musicale et ils ne s'en plaignent pas de manière systématique. Or, c'est cette absence de mesure systématique des troubles de la perception musicale qui fait que pendant longtemps, on est passé un petit peu à côté. Mais en définitive, ça arrive beaucoup plus fréquemment qu'on l'imagine.
Et alors, il y a des exemples, vous en racontez certains, assez frappants de ces personnes qui avaient même un goût pour la musique. Je crois un jeune homme qui aimait beaucoup le jazz. Et
tout
puis,
à fait.
Qu'est-ce qui lui est arrivé?
Eh bien, c'est ça qui est très intéressant, c'est que ces panoramas, ces différents types d'observations nous montrent bien qu'on peut perdre un aspect très spécifique de la perception musicale. Alors, ça peut être, bien sûr, la perception de la hauteur, du rythme, voire des timbres musicaux, mais dans le cas particulier que vous citez, donc qui est donc un cas observé par des chercheurs italiens, c'est un jeune homme donc qui à la suite d'un accident de la circulation, un traumatisme crânien, un hématome au niveau du cerveau, il a une petite lésion du côté droit. Et en fait, il récupère parfaitement, il n'a pas de trouble perceptif, pas de trouble rythmique, tout va bien d'un point de vue perceptif. Sauf qu'il dit, moi la musique que j'écoutais avant, je n'éprouve plus de plaisir à l'écouter. Et ce qui est extrêmement intéressant, c'est qu'évidemment, les neurologues, les psychologues qui l'ont vu, disent, mais expliquez-nous, pourquoi vous n'éprouvez plus de plaisir? Et il l'explique de manière intellectuelle, cognitive, de manière assez élaborée. Il dit, ben voilà, lui, il jouait du jazz, il était autodidacte, il aimait beaucoup jouer du jazz. Il disait, ben voilà, maintenant, quand j'écoute mes disques de jazz, entre ce que fait le soliste et l'accompagnement, pour moi, ça n'a plus aucun sens, je n'arrive pas à faire le lien. Donc on voit bien qu'ici, qu'on touche à quelque chose de très subtil dans la capacité à pouvoir percevoir la musique et à pouvoir y prendre du plaisir.
Ça veut aussi dire qu'il y a un sens inné de la musique, parce qu'on peut ne pas avoir suivi de cours et quand même percevoir intuitivement une cohérence dans un morceau de musique qu'en cas d'accident, on ne perçoit plus.
Je pense que les deux vont de pair. C'est vrai qu'on est toujours sur ce débat inné acquis du point de vue de la musique et même du point de vue du langage. Il faut considérer qu'il faut avoir les bons prérequis au niveau cérébral. Et donc, il y a un pré-câblage ou un héritage potentiellement favorable. Et puis après, il faut que l'environnement aussi fasse son travail. Les deux vont de pair. Mais ce qu'a dit Anne est intéressant parce que c'est vrai qu'au début, Isabelle Peretz a commencé à publier sur les amusiques congénitaux, on était un peu perplexe au niveau de la communauté en pensant qu'il s'agissait de personnes qui avaient été sous-exposées à la musique. Ce qui n'est pas franchement le cas et ce qui est vraiment intéressant.
On va essayer de comprendre d'ailleurs ce qui se passe dans la tête de ces amusiques congénitaux. Nous allons poursuivre notre exploration de ce trouble de la perception musicale dans un instant. Nous vous proposerons même un exemple de test auditif que font les chercheurs pour identifier les personnes à musique. Pour adresser vos questions à nos invités, il y a la page de l'émission sur franceinter.fr.
Just
C'était Diana Ross, You Can't Really Love sur France Inter.
La tête au carré, Daniel Fievé.
Quand le cerveau s'entend mal avec la musique, on s'intéresse à la musique dans la tête au carré en compagnie de deux spécialistes, Anne Caclin, chercheuse en neurosciences, et Hervé Platel, professeur en neuropsychologie. Alors les personnes à musique éprouvent des difficultés à percevoir et à comprendre la musique. Anne Caclin, existe-t-il des tests simples pour savoir si l'on est à musique ?
Oui, alors ce qui a permis finalement l'essor de notre domaine de recherche, c'est le développement d'une batterie diagnostique de la musique qui s'appelle le MBEA, ça veut dire batterie montréalaise d'évaluation de la musique. Et c'est un test d'écoute qui donc on s'intéresse vraiment au déficit de perception, hein, pas de production là. On ne regarde pas le chant par exemple. Et donc il s'agit de tester les différentes composantes de la perception musicale, donc en particulier tout ce qui touche à la hauteur et au traitement des mélodies. Et puis aussi tout ce qui touche aux aspects rythmiques et à la métrique dans les morceaux musicaux.
Alors nous allons diffuser un exemple de test que vous faites passer à des personnes à musique et non à musique pour essayer de comprendre ce qui se passe dans leur cerveau. Il s'agit de deux courtes mélodies qui s'enchaînent et il faut dire si les deux mélodies sont identiques ou différentes. Alors il y a trois possibilités, soit les mélodies sont rigoureusement les mêmes, soit elles diffèrent légèrement ou alors elles sont radicalement différentes. On va écouter deux petites mélodies. Donc là, on a deux petites mélodies qui sont exactement les mêmes, Anne Caclin. Donc, c'est ça la réponse, hein, je me trompe pas jusqu'à maintenant.
Pour l'instant, tout va bien.
Deuxième exemple. Alors là, cette fois-ci, c'est le cas où elles sont légèrement différentes ou radicalement différentes?
Alors là, pour moi, elles sont radicalement différentes. Donc là, c'était un test qu'on avait développé à Lyon, celui-là. Et donc ici, on a fait une transposition complète de la mélodie. Ça veut dire que c'est la même mélodie, mais elle est rejouée une quinte au-dessus. Donc là, toutes les notes changent et c'est une tâche en général que tous nos auditeurs arrivent à faire sans problème.
À musique et non à musique, ne tombe pas dans le panneau et voit qu'il s'agit de deux courtes séquences musicales très différentes. Un dernier exemple. Voilà. Alors, dans ce cas précis, les amusiques entendent quoi, Anne Caclin?
C'est ce qu'on aimerait bien savoir. En tout cas, ce qu'on observe en laboratoire, c'est que des participants contrôle, quand on leur fait réaliser cette tâche de mémoire à court terme auditive, ils ont une performance quasiment à 100% de réponse correcte, alors que les participants à musique congénito ont une très grande difficulté à entendre ces petites différences. La plupart du temps, ils vont nous dire non, j'ai entendu ces deux mélodies comme identiques.
Ouais.
Donc on ne sait pas vraiment ce qu'ils entendent, mais ce à quoi on a accès finalement, c'est que pour eux, ça sonne pareil.
Et vous, ce qui vous intéresse, c'est d'essayer. Alors, vous leur mettez des casques pour mesurer le champ magnétique que produisent leurs neurones pour essayer de comprendre dans quelle région du cerveau la perception de ces phrases musicales se fait et où se situe le problème en quelque sorte.
Voilà, exactement. Donc, on a en particulier réalisé une expérience de magnétoencéphalographie. Donc, c'est comme vous dites, c'est un casque. Ça ressemble à un très gros sèche-cheveux de coiffeur dans lequel on rentre. Et il y a des capteurs qui mesurent le champ magnétique qui résulte de l'activité des neurones. Et donc après, on a des techniques d'analyse qui nous permettent de reconstruire et à partir de ces signaux qu'on enregistre en surface, d'aller chercher où et quand dans le cerveau. On a un déficit de traitement chez les personnes à musique congénitale.
Alors, qu'est-ce qui ressort de ces études que vous avez faites ?
Alors, donc nous, ce qu'on a observé, et ça corroborait d'autres résultats qui existaient dans la littérature, c'est que le déficit serait principalement dans un réseau qui relie les aires auditives. Donc ça, c'est des aires du cortex temporal qui reçoivent les informations auditives qui arrivent par les oreilles. Et puis, une partie du cortex frontal. Donc ça, c'est la partie la plus antérieure du cerveau. Et donc, ce réseau frontotemporal est impliqué, on le sait par ailleurs, dans le traitement de la hauteur des notes, notamment quand il s'agit de les mémoriser.
Oui, c'est-à-dire que sur la hauteur des notes, c'est aussi une question de mémoire, la mémoire courte, hein, vraiment, qui fait qu'on oublie d'ailleurs les amusiques en témoignent. Ils parlent de notes qui s'évaporent, qui se dissolvent, et ils n'arrivent pas à les retenir.
Oui, voilà. Donc nous, on a beaucoup investigué à Lyon ce déficit de, on appelle de mémoire à court terme auditive, donc cette capacité qu'on a à garder la trace pendant un petit moment des informations auditives qu'on vient d'entendre, ce qui va permettre, par exemple, de les manipuler ou bien de les retenir sur le plus long terme ensuite. Et donc effectivement, dans ces tâches de mémoire à court terme, les amusiques congénitaux ont de très très mauvaises performances.
Ouais. Hervé Platel, c'est étonnant de voir que finalement dans la perception musicale un petit peu difficile, c'est un problème de mémoire, alors que souvent, quand on lit notamment vos ouvrages, on voit à quel point mémoire et musique sont liées, mais habituellement c'est une mémoire assez forte, assez résistante, celle qui est liée à la musique.
Oui, alors la mémoire que l'on considère comme résistante dans le domaine de la musique, c'est plutôt une mémoire à long terme, plus qu'une mémoire à court terme, et là on peut penser qu'effectivement chez les amusiques, ce déficit qu'on voit très précoce au niveau mnésique, la capacité à manipuler en fin de compte l'information auditive et de pouvoir en fin de compte la traiter, eh bien fait défaut, et donc certainement que ça ne les aide pas aussi à pouvoir transposer ce qu'ils entendent et d'encoder ce qu'ils entendent en mémoire à long terme et de se faire une bonne représentation catégorielle de l'information musicale. Catégorielle dans le sens où ils vont pouvoir distinguer des répertoires, ils vont pouvoir distinguer des musiques, comme on disait tout à l'heure, distinguer donc joyeux anniversaire, donc de l'hymne national. Mmh. Et chez eux, ça se fait pas.
Ouais. Anne Caclin, on a diffusé les petits tests, les petites mélodies. Je crois qu'on peut se tester soi-même sur votre site, qu'on va mettre en lien sur la page de l'émission, où vous invitez les internautes à tester leur oreille musicale.
Voilà, exactement. En fait, on a mis en ligne la première partie de la batterie de test de la musique qui a été développée à Montréal par le laboratoire d'Isabelle Peretz. Et c'est vrai que pour nous, c'est un outil de travail. C'est en général notre premier contact avec nos participants. Ils viennent sur le site parce qu'ils sont curieux de leur oreille musicale et ils font le test et puis on peut les recontacter.
D'accord. C'est aussi une façon peut-être pour vous de vous aider pour vos futures études. C'est aussi une façon pour vous de recruter des personnes aussi bien à musique que non à musique qui voudraient participer aux études que vous faites, c'est bien ça ?
Tout à fait. On ne peut pas travailler si on n'a pas de participants qui soient aussi motivés que nous par nos questions de recherche.
Alors, inversement, à côté des personnes à musique, certaines personnes ont ce qu'on appelle l'oreille absolue. Exemple, je vous propose d'écouter cet exemple. C'est une enfant, une jeune fille de 6 ans, une fillette de 6 ans, Madeleine, à qui on fait deviner des notes d'accordéon. Hervé Platel, l'oreille musicale, c'est vrai que c'est très impressionnant, hein, cette fillette qui, à coup sûr, entend les notes au demi-ton près. C'est un don répandu dans la population, les oreilles musicales ?
Alors justement, la question, est-ce que c'est un don ? Et pendant longtemps, ça a agité l'histoire, en fin de compte, des conservatoires de musique et aussi des neurosciences. Et là aussi, on va dire que les deux variables sont confondues, c'est-à-dire qu'il y a certainement là aussi un aspect inné, il est important d'être doté, je dirais, du bon pré-câblage. De nombreuses études en neurosciences, notamment en neuroimagerie, ont bien montré qu'il y avait une corrélation très très étroite entre la capacité d'avoir l'oreille absolue, en particulier ça a été étudié pour les gens donc à l'âge adulte, et la précocité de l'apprentissage, donc à un moment où le cerveau est très plastique. Donc évidemment, si on commence la musique vers l'âge de 4 ans, on estime, d'un point de vue statistique, qu'il y a plus de 75% de chances qu'à l'âge adulte, vous ayez l'oreille absolue. Mmh. Alors que si vous commencez ne serait-ce qu'à l'âge de 7-8 ans, ça fait pas longtemps derrière, hein, mais en définitive, vous avez plus que 40% d'avoir l'oreille absolue. Mais il y a une grande variabilité, c'est ça qui est toujours étonnant, et dans des cas comme ça, c'est-à-dire très précoce, d'oreille absolue très précoce, ou éventuellement tardive, sans avoir fait beaucoup d'études musicales, se pose vraiment la question du don.
Ouais. Donc ça s'acquiert quand même grandement. Hein.
Grandement, oui.
C'est quand même essentiellement ça. Mm. Est-ce que le cerveau des personnes qui ont l'oreille musicale est différent du reste de la population ?
Alors, il y a des études, notamment à Montréal aussi, faites par Robert Zatoré en imagerie, qui montrent bien qu'on peut distinguer des musiciens qui ont l'oreille vraiment absolue d'une oreille plutôt relative. C'est-à-dire qu'eux, ils vont comparer par rapport à un diapason interne les notes qu'ils entendent et ils vont faire un petit travail, justement, là aussi encore de mémoire immédiate pour comparer l'information. Donc on peut voir qui a l'oreille absolue et qui a une oreille plutôt relative en regardant l'imagerie cérébrale. Mais il faut savoir que l'oreille absolue chez certains musiciens est souvent un avantage parce que évidemment en termes de dictée musicale c'est quand même bien pratique, mais certains musiciens aussi se plaignent de leur oreille absolue. Moi j'étais surpris par cela, ça pouvait être effectivement un fardeau. Donc une violoniste qui me disent, mais moi, c'est terrible parce que, en définitive, maintenant, quand j'entends un quatuor à cordes, eh bien, je n'entends pas un quatuor à cordes, j'entends quatre personnes qui parlent et qui disent le nom des notes. C'est-à-dire que les notes, en fin de compte, des violons, se transforment en nom des notes. Ouais. Et pour elle, c'est un brouhaha et elle perd le plaisir de l'écoute musicale à cause de ça.
Donc, ça peut être aussi un handicap, l'oreille absolue. Dans un instant, nous verrons avec nos invités si les recherches récentes laissent entrevoir des formes de rééducation pour les personnes concernées par la musée. Nous verrons aussi s'il existe des similitudes entre la musique et d'autres troubles comme la dyslexie. On écoute Stacey Kent, Tangerine, dans La Tête au Carré.
Tangerine, she is all they claim, with her eyes of night and lips as bright as flame. Tangerine, when she dances by, Senorita stare and caballero sigh. And I've seen toasts to tangerine raised in every bar across the Argentine. Yeah, she has them all on the run, but her heart belongs to just one. Her heart belongs to
Je t'ai balancé une chaise, Niman.
J'en sais rien.
Si, tu le sais.
Le tempo.
Est-ce que tu fonçais ou est-ce que tu traînais?
J'en sais rien.
Dans ce cas, compte.
5, 6, 7...
En 4 temps, bordel, regarde-moi.
1, 2, 3, 4... 1, 2, 3, 4... 1, 2, 3, 4...
Je fonce ou je traîne?
Vous foncez.
Donc tu l'entends, la différence?
Cours de musique un peu musclé, nous sommes pas tous égaux devant la musique malgré tous leurs efforts. Certains n'entendent que du bruit sans cohérence ni harmonie. Ce sont les amusiques, à peu près 4% de la population serait concernée. On en parle avec Hervé Platel et Anne Caclin. Et on a des questions, nombreuses questions qui arrivent sur Internet, sur Twitter également. Et sur Twitter, cette question, vous ne parlez que de hauteur de notes, conception bien réductrice de la musique. Qu'en est-il de la perception rythmique ? Anne Caclin.
Malheureusement, c'est pas le domaine qui a été le plus investigué. Mais une observation qui avait été faite par Isabelle Peretz et Christa Hyde à Montréal, donc concernant les amusiques congénitaux. Donc c'était, il leur avait fait réaliser une tâche de discrimination. Donc il fallait dire des notes ou des rythmes étaient identiques ou différents. Donc il y avait une série de notes qui étaient toutes les mêmes et puis de temps en temps il y en avait une qui changeait et elle pouvait changer soit de hauteur, soit de position dans le temps, donc introduire une variation rythmique. Et donc chez cette population d'amusiques congénitaux, la tâche de détection de petits changements de hauteur était très difficile, c'est un peu la définition de ce déficit finalement. Alors que pour de très petites variations de rythme, ils s'en sortaient très bien, ils y arrivaient aussi bien que les contrôles. Donc on a d'abord pensé effectivement que dans cette population, la perception du rythme n'était pas atteinte. Donc après, il y a eu d'autres observations. La première, c'est que quand on fait faire aux amusiques congénitaux des tâches en lien avec le rythme, mais si en même temps on fait varier le contenu en termes de hauteur, donc de mélodie des sons, là ça devient difficile pour eux de faire les tâches sur le rythme. Donc peut-être quand même qu'ils ont un déficit dans la perception du rythme, mais qui ne s'exprime que quand le matériel musical devient suffisamment complexe. Et puis après il y a encore une autre observation qui est qu'effectivement certaines personnes ont un déficit de rythme. Donc votre collègue au début de l'émission disait moi je suis pas le rythme ou j'arrive pas à attraper le rythme, je sais plus quelle était son expression. Et effectivement il y a des gens qui ont cette difficulté à attraper le tempo, les battements dans la musique.
Alors Hervé Platel, une autre question aussi qui revient sur Twitter et sur Internet. La musique a-t-elle des conséquences sur la capacité d'acquisition de la langue, des langues non maternelles ? C'est vrai qu'il y a ce lien régulier entre musique et langage. On a longtemps considéré que la musique était un langage.
Oui, c'est souvent une analogie que l'on fait encore. Mais clairement, les neurosciences nous montrent que si musique et langage partagent un certain nombre de ressources, à un moment donné, les choses peuvent se séparer. Et d'ailleurs, les cas cliniques d'amusie nous montrent bien que les choses peuvent être séparées. Donc, ce que l'on peut dire par rapport au langage, et pour aller dans la continuité d'ailleurs de la réponse d'Anne par rapport au rythme, c'est qu'effectivement, les amusiques congénitaux, généralement, on n'observe pas de difficultés au niveau langage, c'est-à-dire de la perception du langage, au niveau de la perception des phonèmes, et même au niveau de la perception de la prosodie du langage, c'est-à-dire ce qu'on appelle la mélodie du langage, les tons... Donc les intonations. Pourquoi il n'y a pas de problème au niveau du langage ? Parce qu'on estime, parce que en fin de compte, dans le langage, les changements de hauteur liés à la prosodie sont des changements très très importants, beaucoup plus importants qu'en musique, qui sont des changements très subtils. Alors après, il semblerait, alors ça doit être confirmé, mais il semblerait que notamment donc dans les pays asiatiques, en particulier en Chine, on ait un peu moins d'amusique chez nous. Peut-être parce que évidemment ils pratiquent une langue dite à ton et donc la phonologie et l'intonation donnent du sens effectivement donc aux mots.
Il y a quand même un lien du coup entre langage et musique parce que vous nous dites qu'un un entraînement très précoce à une langue très musicale avec des grandes intonations va avoir des répercussions sur la perception musicale. Est-ce que l'inverse est vrai aussi ? Est-ce que les oreilles musicales, les gens qui travaillent la musique ont ensuite des facilités avec le langage ?
Oui, c'est quelque chose en plus qui a été bien documenté par l'équipe de Nina Kraus aux États-Unis et qui montre que la réponse cérébrale de gens qui ont fait des études de musique à des phonèmes d'une langue étrangère qu'ils n'ont jamais entendue, eh bien, il y a une meilleure discrimination de ces sons de langue étrangère. Donc, en fait, c'est un avantage d'avoir fait de la musique pour mieux percevoir les phonèmes, les syllabes d'une langue qu'on ne connaît pas.
Anne Caclin, est-ce qu'il y a un lien entre la musique, la
dyslexie et ces troubles que l'on peut croiser chez l'enfant et chez les plus grands aussi?
C'est une question qu'on commence à se poser, effectivement. Donc, comme Hervé l'avait dit au tout début de l'émission, donc la musique congénitale, c'est ce qu'on appelle un trouble central de l'audition. Donc, le déficit est vraiment au niveau du cerveau. Et la dyslexie aussi peut être vue comme un trouble central de l'audition. Donc se pose bien sûr la question des liens entre ces différents déficits. Donc il a été peu étudié dans le contexte des cultures occidentales. Il commence à y avoir quelques travaux d'équipes en Asie, donc qui effectivement travaillent sur des participants dont les langues maternelles sont des langues tonales, où la hauteur est importante pour la signification des mots. Et il y a une hypothèse qui émerge dans ces cultures sur effectivement le lien entre amusie et dyslexie, avec l'idée que finalement là, le déficit de perception des hauteurs pourrait être une des causes de dyslexie dans ces langues tonales.
Alors on arrive à la fin de cette émission, il y a plusieurs questions évidemment qui demandent sur Twitter, l'amusie est-elle un trouble incurable? N'existe-t-il pas des techniques mises en place pour aider les amusiques? Si oui, lesquelles? Anne Caclin.
Alors pour l'instant, on peut pas aller chez une sorte d'orthophoniste qui vous rééduquerait la perception musicale et la production musicale. Pour l'instant, on n'a pas ça. On essaye de tracer des voies de recherche pour apporter des solutions. Donc on a un peu trois pistes. La première, c'est que malgré tout leur déficit de perception et de mémoire, il y a quand même des représentations à un niveau implicite de la musique chez les amusiques qui semblent intactes, qu'on peut mettre en évidence avec des paradigmes où on pose une question non pas sur ce qui nous intéresse, la hauteur, mais sur autre chose. Et puis, on arrive à montrer comme ça, en manipulant la stimulation, que de manière implicite, indirecte, les fonctions musicales principales sont préservées. Donc, on espère démasquer finalement ces autres représentations par une remédiation. Et puis à Lyon on a aussi creusé dans deux autres directions. Une première serait d'utiliser les interactions qui existent entre nos différents sens. Donc on sait que quand on perçoit des informations auditives, visuelles en même temps, elles sont pas traitées de façon séparée, mais elles sont traitées de manière intégrée. Et donc souvent il y a des facilitations de traitement entre les modalités sensorielles. Donc on essaie de mettre ça en place. On a déjà réussi à montrer que dans la tâche où on demande aux participants de détecter un petit changement de hauteur dans des notes qui sont sinon toutes identiques, donc qui est très difficile pour les amusiques congénitaux, si en même temps que les stimulations auditives, on leur montre des petites stimulations visuelles synchrones, eh bien rien que la présence de ces petites stimulations leur permet d'améliorer leur réponse auditive.
Mmh. Hervé Platel, juste 20 secondes pour finir, mais toutes ces expériences, c'est aussi, ça permet de mieux comprendre tout simplement comment notre cerveau perçoit la musique, même chez les gens qui ne souffrent pas d'amusie, hein. C'est aussi ça l'intérêt de ces études.
Complètement. Alors, ça nous permet de mieux comprendre comment le cerveau perçoit la musique, mais ça nous permet aussi de démontrer les capacités de neuroplasticité du cerveau, de voir en fait que la musique, c'est certainement aussi un problème de mise en place d'un certain nombre de liens de connexion entre certaines régions du cerveau, mais qu'on peut sans doute remédier à cela, et la neuroplasticité nous permet de le faire.
Merci Hervé Platel et Anne Caclin. Je rappelle pour Hervé Platel que vous êtes l'un des auteurs du livre Le cerveau mélomane aux éditions Belin, dont l'un des chapitres traite de la musique. Merci à tous les deux. Merci à France Bleu La Rochelle, d'où nous parlait Anne Caclin. Merci à Frédéric Gastine, qui était à la technique à France Bleu La Rochelle. Juste après les infos, vous avez rendez-vous avec Fabrice Drouel pour une nouvelle diffusion de son émission Affaires sensibles.